Bonsoir. Je viens de la Côte d'Azur. Je travaille dans l'équipe Epion de INRIA Sophia Antipolis. Et je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette invitation à présenter dans cet événement très prestigieux. Et dans mon exposé, je voudrais vous montrer le travail qu'on fait dans l'équipe Epion, moi et mes collaborateurs, autour de l'utilisation de l'apprentissage de la statistique pour l'analyse et la compréhension des maladies neurodégénératives, et notamment la maladie d'Alzheimer. Et j'aime bien toujours présenter les problèmes en montrant cette série d'autoportraits faite par cette peintre américaine qui, je pense, donne une vision très frappante, en fait, de ce que c'est une maladie neurodégénérative, qu'est-ce que c'est l'effet, en fait, dans la vie d'une personne. Et aujourd'hui, maladies comme la maladie d'Alzheimer, ils ont un coût très, très cher à niveau humain pour les patients, pas seulement pour les patients, pour les familles, pour la société entière. Et c'est un coût humain, mais c'est aussi un coût sociétal et il va augmenter de plus en plus. Il y a des projections qui montrent que ce sera presque insoutenable d'ici à 20 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches autour de problèmes de maladies neurodégénératives. Et grâce aux efforts des chercheurs, cliniciens, biologistes, maintenant on a des connaissances importantes sur la maladie neurodégénérative. On sait qu'il se déroule sur un temps que ça peut durer jusqu'à 30 ans et sont caractérisés par des changements à différents niveaux, à niveau biochimique, à niveau fonctionnel et à niveau aussi de la structure du cerveau. Et chaque changement, en fait, il caractérise une étape précise de la maladie, de la normalité. On développe des troubles cognitifs légers et après, on passe par la diagnostic pour la démence. À côté de ça, aujourd'hui, on connaît qu'il y a beaucoup plus de facteurs, en fait, qui jouent un rôle primaire dans la maladie. Par exemple, facteurs génétiques, facteurs vasculaires, facteurs aussi style de vie, sociodémographique, et jusqu'à maintenant, les chercheurs sont en train de se plonger dans le monde par exemple, du bactérie, du microbiome, et ils ont montré qu'il y a aussi des associations avec les troubles de mémoire. Alors, vous pouvez comprendre, en fait, la complexité de ces problèmes. Le point, c'est qu'on est en train de parler de données assez complexes, très différentes, qui viennent de domaines complètement différents, et aujourd'hui, on n'est pas capable de faire un lien, en fait, entre tout ce que vous voyez là-bas. Et c'est aussi pour cette raison que, pour ce qui concerne les soins des maladies neurodégénératives, aujourd'hui, on n'a pas un médicament et on n'a même pas une façon efficace de ralentir l'évolution de la maladie. Et tout ça, ça pose un problème énorme. Et c'est là où je pense que la science des données, mais pas seulement moi, mais la recherche, dont je fais partie, où la science des données peut jouer un rôle primaire, en fait, parce que la science des données, ils nous fournissent des outils très puissants pour formaliser des hypothèses ou pour créer de nouvelles hypothèses sous la forme des modèles. Et après, grâce à ces modèles, on peut interroger, en fait, le monde autour de nous, qui prend la forme des données. Et grâce à cette interrogation, on peut chercher de répondre à des questions importantes de la médecine d'aujourd'hui. Et dans le contexte des maladies neurodégénératives, les questions sont comment on fait, en fait, pour améliorer notre compréhension de la maladie, par exemple, pour mettre ensemble tout ce genre d'informations, ces données qui sont très complexes et très différentes. Et aussi, comment on peut caractériser l'évolution d'une maladie au cours du temps. Alors, l'évolution de toutes ces informations pour représenter cette évolution pathologique, que ça peut être très utile, en fait, pour faire un diagnostic, pour le suivi, et aussi pour les essais cliniques. Et c'est autour de ces questions-là auxquelles on est en train de travailler aujourd'hui. Et dans cet exposé, je voudrais vous montrer des contributions, des travaux qu'on fait pour répondre dans le spécifique à ces trois questions ici. Alors, comment mélanger, comment intégrer des données hétérogènes? Comment intégrer une composante temporelle dans la modélisation? Et aussi, comment utiliser l'apprentissage, en fait, pour améliorer notre compréhension sur la biologie de la maladie? Alors, commençons pour la première question. Quand on parle de données hétérogènes, on peut imaginer imagerie. On a vu aujourd'hui différents types d'imagerie médicale qui nous donnent différentes informations sur, par exemple, la structure, la forme du cerveau. Mais aussi, on a aussi des données cliniques, on a des données biologiques. Et vous pouvez imaginer chaque type de données est caractérisé par dimensionnalité différente, complexité, variabilité spécifique. Ce qu'on voudrait faire, c'est faire un lien en fait, entre tous ces types de données et comprendre qu'est-ce que c'est la relation. Ça, c'est très complexe. En statistique, une forme d'attaquer ces problèmes, c'est par ce qu'on appelle un modèle à variable latente. Alors, on fait l'hypothèse que toutes ces données sont liées, en fait, par une variable, une représentation de le statut du patient, une représentation latente, dans laquelle on peut faire des hypothèses, par exemple, d'interprétabilité, on peut faire l'hypothèse que ce soit dimensionnalité très réduite. Et après, on cherche en fait la représentation latente la meilleure pour lier ensemble toutes ces données par ce qu'on appelle décodage. Alors, on veut maximiser la probabilité d'observer les données en sachant cette condition latente du patient. Alors, le but, c'est de faire de l'inférence, de comprendre, de modéliser cette représentation latente. Et comme on le fait, c'est aussi en statistique, on peut le faire par les données elles-mêmes. Ça veut dire que, en sachant un type de données, par exemple l'imagerie structurelle, on veut récupérer en fait la représentation latente en sachant cette information. Et on peut faire le même exercice en utilisant des types d'informations différentes. Et chaque modalité, il nous va donner en fait, une vision différente de cette représentation latente. Mais de façon ultime, ce qu'on voudrait faire, c'est imposer que toute cette représentation, ils sont le plus proches possible à une cible, ça veut dire en posteriori, de cet état latent en connaissant toutes les données eux-mêmes. Alors, le problème, c'est de résoudre ce problème d'inférence. Et ce qu'on a proposé de faire, c'est d'imposer une contrainte sur cette représentation latente. On impose que chaque représentation latente, en sachant un type de données différent, ce soit le plus proche possible en termes de théorie de l'information à une distribution cible, cette posteriori. Et ce qu'on peut montrer, c'est que tout ça amène à un schéma d'inférence qui est très, 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 très joli et aussi à niveau computationnel, c'est très efficace, qui prend la forme de l'optimisation de cette fonctionnelle, dans laquelle on reconnaît des éléments très intéressants. En fait, en optimisant ces fonctionnelles, on demande d'identifier une représentation latente d'un type de données qui, à la fois, ils arrivent à expliquer tous les autres types de données conjointement. Et en plus, on obtient un paramètre que c'est une régularisation. Ça veut dire que cette représentation latente, ça doit être bien, ça doit comporter bien, par exemple, que ce soit le plus proche possible à un a priori, sur lequel on peut imposer un contrainte de parcimonie pour avoir une interprétabilité majeure. Et ici, vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on entraîne ce type de modèle sur des données complexes, sur des différents patients, données d'imagerie, données cliniques, sociodémographiques. Et vous voyez à gauche la représentation latente qu'on apprend. Et même si le modèle il était agnostique, en fait, de la diagnose, vous pouvez voir que dans la représentation latente, on a un bel gradient en fait, qui représente tout l'état clinique qui sont appris automatiquement pour le modèle. Et vous voyez aussi que cette représentation, il est consistante même sur des données qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. C'est des données indépendantes. Et grâce à cette représentation, on amène à une bonne prédiction en fait, des états cliniques. Toujours, cette information n'était pas utilisée pour l'entraînement. Mais aussi, car le modèle est génératif, on peut explorer en fait, cette représentation latente pour générer par exemple, des cartes d'abnormalité associées au modèle, que le modèle a appris. Et ça, c'est une possibilité très importante pour ce genre de ce type de modèle, parce que ça nous permet d'interpréter, en fait, ce qui a été appris par les modèles. Et aussi le fait que les modalités sont traitées de façon indépendante avec ces contraintes, ça nous permet aussi de gérer en fait, des données manquantes et de générer aussi des données quand les données sont manquantes. Alors ça peut être une étude très prometteuse, soit pour la clinique, mais aussi pour faire des simulations, par exemple pour simuler des jeux de données dans les essais cliniques. En s'appuyant sur des méthodologies proches à ce que je vous montrais, toujours modèle à variable latente, on a aussi montré qu'on peut monter à l'échelle et utiliser conjointement des données de l'imagerie, notamment mesure de l'atrophie corticale et subcorticale, avec, modéliser conjointement avec les variations génétiques sur le génome entier, mesurées, quantifiées par les variantes génétiques. Et on est arrivé à identifier un profil de l'atrophie spécifique pour la maladie d'Alzheimer avec les régions génomiques associées à ces profils. Et grâce à l'interaction avec biostatisticiens et génétistes, on est arrivé, en fait, en partant de cette représentation, cette région génétique qui a été ciblée par les modèles, on est arrivé à identifier un gène, TRIP3, qui en fait s'est révélé prometteur en fait, pour expliquer des mécanismes importants pour la maladie, notamment un mécanisme lié à la mort des neurones et aussi à la production de la protéines toxiques à bêta-amyloïde. Donc, sur cette première partie, les modèles à variables latentes sont des outils très utiles et très puissants, en fait, pour mélanger des informations complexes et hétérogènes. Mais on doit toujours faire attention parce qu'on entraîne, au moins dans ces cas-là, de travailler avec des données à très forte dimension et normalement, la taille des échantillons est toujours faible. Donc, il faut des hypothèses, il faut des contraintes, comme je vous montrais, pour assurer que les méthodes passent à l'échelle, que ce soit flexible et surtout interprétable. Et surtout, ce que je pense, c'est que dans ce contexte-là, la collaboration avec les cliniciens et avec les biologistes soit fondamentale pour garantir l'interprétabilité et la généralisation de ce qu'on trouve par apprentissage. Donc, on a vu comment intégrer des données hétérogènes, mais ici, je n'ai pas encore traité le problème d'intégrer une composante temporelle, parce que ces données, beaucoup de fois, elles sont en train d'échanger dans le temps. Et dans ces figures, on voit les paradigmes dans lesquels on se doit confronter quand on travaille dans cette thématique. C'est qu'à gauche, on voit des modèles hypothétiques que j'ai montré tout à l'heure, qui sont des modèles dessinés à la main, presque, par des cliniciens sur la base de leur expérience. Mais en réalité, quand on travaille avec les données, on a affaire avec la situation que vous voyez à gauche. Ça veut dire les spaghetti plots. Ça veut dire que dans nos essais cliniques, on a différentes mesures pour différents marqueurs, différents sujets, une très forte variabilité dans les temps, une forte variabilité entre les différents sujets, et surtout une échelle du temps qui est très limitée. C'est normalement l'échelle du temps de l'étude clinique. Ça veut dire quelques années au maximum, mais jamais 30 ans, oh, pas encore. Et surtout, cette échelle du temps, ce n'est pas du tout lié, ou pas lié directement à l'échelle du temps des changements de la maladie. Ce qu'on voudrait faire, c'est établir un lien entre ce qu'on voit à gauche et le modèle hypothétique à droite. Ça, c'est pour identifier de façon unique en fait, l'état d'un patient par rapport à une progression de la maladie, et aussi pour, par exemple, dans les essais cliniques, quantifier une évolution pathologique par rapport à une évolution normale. Une façon d'attaquer ces problèmes, c'est en partant de ce qu'on appelle ces spaghetti plots, différentes mesures au cours du temps pour des différents patients. On peut faire des hypothèses en fait, sur la progression pathologique de quelles ces données sont été issues. Par exemple, on peut faire l'hypothèse que la pathologie ce soit une progression qui évolue de façon lisse dans les temps, lentement, ça c'est raisonnable. Une autre hypothèse importante, c'est par exemple, on peut imaginer que la pathologie neurodégénérative, c'est une chose qui change, qui varie de l'état normaux à l'état pathologique, et sans la possibilité de revenir arrière. En termes mathématiques, c'est un processus monotone. Et avec cette hypothèse, on peut identifier une transformation de l'espace de mesure, par exemple, une transformation de l'échelle du temps, pour en fait, identifier la meilleure disposition des observations des sujets un par rapport à l'autre, pour identifier cette progression avec les contraintes qu'on a imposées. Et une fois qu'on a fitté ce modèle, on peut aller interpréter les paramètres du modèle, par exemple les paramètres de transformation temporelle associés à chaque sujet, pour identifier, par exemple, l'état pathologique associé à chaque patient. Et ce que vous voyez ici, c'est un peu ce genre de modèle en pratique. Vous voyez que l'échelle du temps, l'as des X de chaque marqueur ici, il est en train de changer pour en fait, satisfaire cette contrainte que je vous dis tout à l'heure, pour obtenir ces progressions monotoniques qui donnent une description de l'évolution dans le temps des biomarqueurs. Et on propose d'attaquer ces problèmes par modélisation à effets aléatoires, dans lesquels l'effet fixe, les lignes noires que vous voyez, on les paramétrise par des processus gaussiens, qui sont juste une façon d'interpoler des données très flexibles, et aussi qui nous permettent d'obtenir une quantification de l'incertitude des mesures, et dans lesquels on impose un contrat de monotonicité, et en plus on inclut cette reparamétrisation du temps. Et alors, ce genre d'approche ici font déjà partie un peu de l'état de l'art dans cette problématique. Et si vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on applique ce modèle sur des données différentes, de la métabolisme, amyloïde, cognition, volume de cerveau, sur une cohorte de quelques centaines de sujets, dans lesquels le temps observationnel, c'est 5 ans, mais vous voyez que les modèles, ils arrivent à identifier des différentes trajectoires qui, cette fois, après l'optimisation, selon les modèles, ils évoluent sur une échelle temporelle de presque 20 ans. Et on peut apprécier en fait les différentes dynamiques d'évolution et aussi les différentes variabilités associées à différents biomarqueurs. Ça, c'est une information très importante et très interprétable, en fait, pour laquelle les cliniciens, en fait, ils apprécient beaucoup. Mais on peut demander plus, en fait. Comme on fait aussi, on a travaillé avec des valeurs scalaires, des chiffres, mais on aimerait bien monter en fait l'échelle et modéliser des images entières. Comment faire pour donner une description complète de l'évolution au cours du temps dans des données très complexes pour avoir une description compréhensive en fait à l'échelle plus fine de la maladie. Et on propose d'attaquer ces problèmes par une décomposition des matrices, une factorisation. On fait l'hypothèse que notre image sont représentées par des matrices à très grande dimension, la dimension des données d'imagerie pour les individus, et on cherche de factoriser ces données complexes comme une composition en fait des sources temporelles, toujours notre Gaussian processus gaussien monotonique, chacun qui module des régions spécifiques qu'il faut prendre aussi. Et on a toujours notre contrainte de parcimonie pour identifier des régions cibles uniques associé à chaque progression. Et vous pouvez imaginer que le nombre de dimensions et le nombre de paramètres dans ces problèmes, c'est assez grand, mais on peut montrer qu'on arrive à attaquer ces problèmes de façon très efficace grâce à toutes les astuces d'inférence stochastique variationnelle. Et on peut obtenir des représentations comme ça, dans lesquelles on décompose, en fait, toujours avec ces reparamétrisations du temps, on identifie des différentes dynamiques, chacun avec ses propres régions associées qu'on apprend. Ça, c'est tout appris de façon aveugle. On a seulement ces contraintes de monotonie sur la trajectoire. Et ça permet une belle interprétation, en fait, d'un processus assez complexe comme l'évolution de la neurodégénération. Et avec ce type de modèle-là, on peut identifier en fait, une évolution sur différentes modalités qui explique l'évolution de la maladie dans tous ses aspects, en fait, la structure, la déposition des protéines toxiques, amyloïdes, tau, et le métabolisme. Toujours important des données qui sont définies sur un axe temporel très court, en fait, mais ici, on arrive à récupérer une progression qui décrit toute l'évolution naturelle, en fait, de la pathologie sur 20 ans. Et une fois qu'on a un modèle comme ça, on peut par exemple, l'utiliser comme une référence statistique pour l'interroger. Si on voit un patient avec ses propres images, on peut se poser la question où se trouve le patient avec ses images par rapport à l'évolution du modèle. Et on peut estimer en fait l'instant temporel plus probable. Et si vous voyez, on a fait cet exercice sur une cohorte complètement indépendante du modèle. C'est la cohorte de l'hôpital de mémoire de Genève. Alors, c'est des sujets acquis même avec des scanners complètement différents de ceux qui ont été utilisés pour les données d'entraînement. Et vous voyez que la prédiction qu'on obtient en termes de temps corrèle très, très fortement en fait, avec la diagnostic. Donc, ce genre de modèle, ça peut fournir un support très important pour l'aide à diagnostic automatisée pour mettre ensemble des informations très complexes et très haute dimension. Et tout ça, j'ai fait juste une petite publicité. On est en train de mettre à disposition en fait, ces modèles dans le site que vous voyez et dans lequel vous pourrez utiliser cet algorithme sur votre propre donnée et recevoir directement les résultats chez vous, chez votre boîte email. Et de plus en plus, on mettra notre outil en ligne à disposition. Et pour conclure, la dernière question que je voudrais vous présenter, ça concerne le fait que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sont des modèles descriptifs ou prédictifs. Mais ils nous disent très peu, en fait, sur qu'est-ce que c'est la dynamique biologique, pathologique de l'évolution d'une maladie. Et ça, c'est un point très, très important, très fondamental, parce que de plus en plus, les chercheurs sont en train d'expliquer la neurodégénération comme des protéinopathies, le même niveau, même similairement à ce qui se passe dans les maladies à prion. Ça veut dire que chaque maladie neurodégénérative peut être caractérisée par une diffusion en fait, des protéines toxiques par rapport à l'architecture du cerveau. Le problème, c'est ce genre des hypothèses. Pour l'instant, elles n'ont pas encore été testées complètement sur les humains, parce que ce type de dynamiques sont très complexes à modéliser. Et aussi, vérifier ça par analyse des images, c'est toujours très complexe, très dur. Alors, pour commencer à répondre à cette réponse, à cette question, on a proposé toujours de s'appuyer sur notre modèle par processus gaussien, mais cette fois, on remplace les contraintes de monotonie avec un contraint plus complexe, un contraint qui se répond à un système dynamique. En fait, on veut identifier une progression qui est plus proche, qui nous permet d'expliquer un phénomène dynamique, par exemple, l'accumulation de protéines dans chaque région cérébrale. Et quand on arrive à un niveau critique, cette accumulation génère une propagation en fait, des protéines d'une région cérébrale à l'autre. Tout ça, ça peut être exprimé par un système dynamique dans lequel l'inconnu, ce n'est pas seulement la progression, mais c'est aussi les coefficients du coefficient de système dynamique. Par exemple, les coefficients d'échange entre une région et l'autre. Et récemment, on a proposé toute une théorie en fait, pour apprendre les systèmes dynamiques eux-mêmes par les données, toujours en s'appuyant sur la régression par un processus gaussien, et dans lequel bon, on cherche à la fois d'interpoler les données et apprendre les coefficients du système dynamique. Et ici, on appliquait ce genre d'approche à les données de TEP, donc à la modélisation de l'accumulation de la protéine amyloïde, toujours en tenant en compte de ce problème de reparamétrisation du temps. Ici, vous voyez, une fois qu'on a pris le modèle dynamique, par exemple, on peut l'intégrer et montrer en fait les dynamiques des changements, par exemple, des niveaux de cette protéine, des accumulations, des uptake, des traceurs de la protéine dans différentes régions du cerveau. Alors, on peut obtenir ces visualisations de flux entre différentes régions. On peut montrer comment ils évoluent dans le temps sur des régions cibles. Et on peut aussi montrer comment ces coefficients de propagation ils évoluent au cours du temps, pour montrer en fait tous les aspects de la dynamique d'une pathologie au cours des 20 ans qu'on arrive à modéliser. Ça, je trouve, c'est très intéressant et plutôt nouveau, en fait. Mais aussi, car on a un système dynamique, on peut le personnaliser. On peut partir des mesures d'un patient comme condition initiale et après on peut évoluer le système par rapport à les dynamiques qu'on a prises, en tenant en compte aussi de la variabilité des mesures qu'on a quantifiées. Et vous voyez ici, par exemple, un patient spécifique, on peut évoluer le système et on arrive à modéliser cette progression d'accumulation de la pathologie sur tout le cerveau. Et on montre aussi que cette prédiction dans le futur, ils sont assez proches en fait à ce qu'on observe dans la réalité. Donc, aujourd'hui, on a des méthodologies pour estimer la progression naturelle de la pathologie à partir des données cliniques, donc des données très courtes. Et ça, je trouve que c'est très prometteux. Et c'est un exemple de comment l'apprentissage statistique, dans les cas où on n'a pas de gros échantillons et les données sont complexes, il a un gros bénéfice quand on injecte l'information, on met des contraintes. Et les contraintes ici, par exemple, sont la monotonie ou sont le système dynamique. Alors, dans ces cas-là, on a besoin, en fait, d'intervenir. On ne peut pas se baser sur des approches d'apprentissage pures. Et tous ces modèles-là, je pense, ils vont représenter de plus en plus des outils très importants et très utiles pour les cliniciens comme outils quantitatifs pour le diagnostic et pour le suivi dans les essais cliniques. Et donc, pour conclure, j'espère de vous avoir convaincu que la science des données, c'est une discipline très fascinante et très utile pour faire un lien entre des autres disciplines, parfois très distantes entre eux, de l'informatique jusqu'à la médecine, à la biologie. Et de plus en plus, en fait, les potentiels de ces méthodes ils vont être importants grâce à des efforts de mise à disposition de grandes bases de données, tout ça, même si ça va donner des autres problèmes au niveau d'éthique, anonymisation, sécurité des données, mais ça, c'est autre chose. Et pour conclure, je voudrais remercier tous les collègues qui ont contribué à tout ce que je vous montrais jusqu'à dans cette présentation. Et je vous remercie pour votre attention.